La guerre des Gaules, écrit par Jules César, traduit en 1926 par Léopold Albert Constance. Livre 7. Troisième partie de 4. La lecture d'aujourd'hui est tirée du Corpus Scriptorum Latinorum en date du 24 juin 2009. 46. La distance entre le mur de la ville et la plaine, depuis l'endroit où commençait la montée, était en ligne droite sans aucun détour de 1200 pas. Mais tous les lacets qu'on avait faits pour faciliter l'ascension augmentaient la longueur du chemin. Environ à mi-hauteur, les Gaulois avaient construit un mur de grande pierre, haut de 6 pieds, qui suivait le flanc de la colline aussi régulièrement que le permettait la nature du terrain, et était destiné à ralentir notre assaut. Toute la zone inférieure avait été laissée vide, tandis que la partie de la colline comprise entre ce mur et le rempart de la ville était remplie de campements très serrés. Nos soldats, au signal donné, arrivent promptement à ce premier mur. Ils le franchissent et s'emparent de 3 camps. Et ils le firent si promptement que Teutomatos, roi des Nitiobroges, surpris dans sa tente où il faisait la sieste, n'échappa qu'à grand-peine des mains des soldats qui y rentraient pour faire du butin. Il s'enfuit à demi-nu et son cheval fut blessé. 47. Comme il avait atteint le but qu'il s'était proposé, César ordonna de sonner la retraite et, ayant harangué la 10e légion avec laquelle il était, il lui fit faire halte. Les autres légions n'entendirent pas la trompette parce qu'elles étaient au-delà d'un ravin assez large. Pourtant, les tribuns et les légats, suivant les instructions de César, s'efforçaient de les retenir. Mais les soldats, exaltés par l'espoir d'une prompte victoire, par le spectacle de l'ennemi en fuite, par le souvenir de leur précédent succès, pensaient qu'il n'y avait pas d'entreprise si ardue que leur valeur ne pût mener à bien, et ils ne cessèrent la poursuite qu'une fois arrivés près des murs et des portes de la cité. À ce moment, une clameur s'éleva de tous les points de la ville. Ceux qui étaient loin, effrayés de ce soudain tumulte, crurent que l'ennemi avait franchi les portes et sortirent de la place précipitamment. Les mères de famille jetaient du haut des murs des étoffes et de l'argent, et, le sein découvert, penchées sur la muraille et tendant leurs mains ouvertes, elles suppliaient les Romains de les épargner, de ne pas massacrer, comme ils avaient fait à Avaricum, les femmes mêmes et les enfants. Plusieurs, se suspendant aux mains de leurs compagnes et se laissant glisser, venaient se rendre aux soldats. Lucius Fabius, centurion de la 8e légion, avait, c'était connu, déclaré ce jour-là, au milieu de ses hommes, que les récompenses de la journée d'Avaricum le remplissaient d'ardeur, et qu'il ne souffrirait pas que personne n'escaladât le mur avant lui. Il prit avec lui 3 de ses soldats, et hissé par eux, il monta sur le rempart. Puis, à son tour, les tirant à lui, il les fit monter l'un après l'autre. 48. Cependant, ceux des Gaulois qui s'étaient assemblés de l'autre côté de la ville, ainsi que nous l'avons expliqué plus haut, pour y faire des travaux de défense, entendant d'abord des cris, puis recevant à plusieurs reprises la nouvelle que les Romains étaient maîtres de la ville, se portèrent au pas de course vers le lieu de l'action, précédés de la cavalerie. À mesure qu'ils arrivaient, ils prenaient position au pied de la muraille et grossissaient les rangs de nos adversaires. Lorsqu'ils furent en grand nombre, on vit les mères de famille qui, quelques instants auparavant nous tendaient les mains du haut des murs, adresser leurs prières aux Gaulois et, selon la coutume de ce peuple, leur montrer leurs cheveux épars et tendre vers eux leurs enfants. Les Romains ne luttaient pas à armes égales. La position, le nombre était contre eux. Sans compter que, fatigués par la course et par la durée du combat, il ne leur était pas facile de soutenir le choc de troupes toutes fraîches. 49. César, voyant que l'ennemi avait l'avantage de la position et de plus en plus celui du nombre, conçut des craintes pour la suite du combat. Il envoya à son légat Titus Sextius, à qui il avait confié la garde du petit camp, l'ordre d'en faire sortir promptement ses cohortes et de les disposer au pied de la colline, sur la droite de l'ennemi, afin que, s'il voyait les nôtres lâcher pied, il pût intimider l'ennemi et gêner sa poursuite. De son côté, César, s'étant porté avec sa légion un peu en avant du point où il avait fait halte, attendait l'issue du combat. 50. Le corps à corps était acharné, l'ennemi se fiant aux avantages que lui donnaient le terrain et le nombre, et nos soldats à leur valeur, quand soudain on vit paraître sur notre flanc droit les Éduains, que César avait envoyés par une autre montée à droite pour faire diversion. Trompés par la ressemblance de leurs armes avec celles des ennemis, les Romains furent vivement émus, et bien qu'ils eussent l'épaule droite découverte, ce qui était le signe conventionnel en usage, nos soldats crurent que c'était là un stratagème employé par l'ennemi pour les abuser. Au même moment, le centurion Lucius Fabius et ceux qui avaient escaladé la muraille avec lui étaient enveloppés, massacrés et jetés à bas du rempart. Marcus Petronius, centurion de la même légion, après avoir essayé de briser les portes, écrasé par le nombre et voyant sa mort certaine, il était couvert de blessures, s'adressa en ces termes à ses hommes qui l'avaient suivi. « Puisque je ne peux me sauver avec vous, je veux du moins préserver votre vie, que ma passion de la gloire a mise en péril. Songez à votre salut. » « Je vais vous en donner le moyen. » Ce disant, il se précipita au milieu des ennemis, en tua deux et réussit à dégager un peu la porte. Ses hommes essayaient de l'aider, mais lui, « En vain, dit-il, vous tentez de me sauver. J'ai perdu trop de sang et mes forces me trahissent. Partez donc pendant que vous le pouvez encore et repliez-vous sur la légion. » C'est ainsi que peu après, il tomba, les armes à la main, en assurant le salut des siens. 51. Les nôtres, pressés de toutes parts, ayant perdu 46 centurions, furent bousculés. La poursuite furieuse des Gaulois fut ralentie par la 10e légion, qui s'était établie en soutien sur un point où la pente était un peu moins forte. Cette légion fut à son tour appuyée par les cohortes de la 13e, que le légat Titus Sextius avait fait sortir du petit camp et qui avait pris position au-dessus de la plaine. Dès que l'ensemble de nos légions atteignit cette plaine, elles s'arrêtèrent et se reformèrent face à l'ennemi. Vercingétorix ramena ses troupes du pied de la colline à l'intérieur du retranchement. Nous perdîmes ce jour-là un peu moins de 700 hommes. 52. Le lendemain, César, ayant assemblé ses troupes, leur reprocha leur manque de réflexion et de sang-froid. Ils avaient décidé d'eux-mêmes jusqu'où ils devaient aller et ce qu'ils devaient faire. Ils ne s'étaient pas arrêtés quand on avait sonné la retraite et les tribuns, les légats même n'avaient pu les retenir. Il leur expliqua de quelle importance était le désavantage de la position et quelle avait été sa pensée à Avaricum lorsque, ayant surpris l'ennemi sans chef et sans cavalerie, sûr de la victoire, il y avait pourtant renoncé, parce qu'il ne voulait pas éprouver dans cette rencontre les pertes, fussent-elles légères, que lui aurait valu le désavantage de sa position. Autant il admirait l'héroïsme d'hommes que n'avaient arrêté ni les fortifications du camp ennemi, ni la hauteur de la montagne, ni le mur de la ville, autant il réprouvait leur indiscipline et leur présomption, qui leur avait fait croire qu'ils étaient plus capables que leur général d'avoir une opinion sur les conditions de la victoire et sur l'issue d'une action. Et il ne demandait aux soldats pas moins de discipline et de domination de soi-même que de courage et de force d'âme. 53. Ces derniers mots furent des mots de réconfort. Il n'y avait pas lieu de se décourager, et il ne devait pas attribuer aux qualités guerrières de l'ennemi un échec que leur avait valu le désavantage de leur position. Après cette harangue, étant toujours du même avis sur l'opportunité du départ, il fit sortir ses légions du camp et les rangea en bataille sur un terrain favorable. Comme Vercingétorix n'en restait pas moins derrière ses retranchements et ne descendait pas dans la plaine, après un petit engagement de cavalerie, et où il eut l'avantage, il ramena ses troupes dans le camp. Il recommença le lendemain, et jugeant dès lors qu'il en avait assez fait pour abattre la jactance gauloise et pour relever le courage des siens, il se mit en route pour le pays des Éduins. L'ennemi n'osa pas davantage nous poursuivre. Le troisième jour, César atteint l'Allier, y reconstruit les ponts et fait passer ses troupes sur l'autre rive. 54. Là, les Éduins, Viridomaros et Eporedorix, ayant demandé à lui parler, il apprend d'eux que Litavicos est parti avec toute la cavalerie pour tâcher de soulever les Éduins. Il faut, disent-ils, qu'ils aillent en avant pour maintenir la cité dans le devoir. Bien qu'il eût déjà maintes preuves de la perfidie des Éduins et qu'il lui parut que leur départ ne ferait que hâter la défection de ce peuple, il ne crut point pourtant devoir les retenir, ne voulant pas les offenser ni laisser supposer qu'il fût inquiet. Au moment de leur départ, il leur exposa, en quelques mots, ses titres à la reconnaissance des Éduins. Ce qu'ils étaient et dans quel abaissement quand il les accueillit. Refoulés dans les places fortes, dépouillés de leurs terres, privés de toutes leurs troupes, soumis à un tribut, obligés par les contraintes les plus humiliantes à livrer des otages. Ce qu'il avait fait d'eux et comment il les avait portés si haut que non seulement on les voyait rendus à leur premier état, mais plus honorés et plus puissants qu'ils n'avaient jamais été. Sur ces paroles, qu'ils avaient charge de répéter, il les congédia. 55. Noviodunum était une ville des Éduins située sur les bords de la Loire, dans une position avantageuse. César y avait rassemblé tous les otages de la Gaule, du blé, de l'argent des caisses publiques, une grande partie de ses bagages et de ceux de l'armée. Il y avait envoyé un grand nombre de chevaux achetés en Italie et en Espagne en vue de la présente guerre. Eporedorix et Viridomaros, en arrivant dans cette ville, apprirent quelle était la situation chez les Éduins. Ceux-ci avaient accueilli Litavicos à Bibracte, ville qui jouit chez eux d'une très grosse influence. Convicto Litavis, magistrat suprême de la nation, et une grande partie du Sénat étaient venus l'y trouver. On avait envoyé officiellement des ambassadeurs à Vercingétorix pour conclure avec lui un traité de paix et d'alliance. Aussi pensèrent-ils qu'ils ne devaient pas laisser échapper une occasion aussi avantageuse. Ayant donc massacré le détachement de garde à Noviodunum et les marchands qui s'y trouvaient, ils se partagèrent l'argent et les chevaux. Ils firent conduire les otages des divers peuples à Bibracte auprès du magistrat suprême. Quant à la ville, jugeant impossible de la tenir, ils l'incendièrent pour qu'elle ne pût servir aux Romains. Ils emportèrent dans des bateaux tout le blé qu'ils purent charger sur l'heure, et le reste, ils le jetèrent dans le fleuve ou le brûlèrent. Ils s'employèrent personnellement à lever des troupes dans les régions voisines, à disposer des détachements et des petits postes sur les bords de la Loire, à faire partout des raids terroristes de cavalerie, espérant ainsi couper les Romains de leur ravitaillement ou les déterminer par la disette à s'en aller dans la province. Ce qui les encourageait beaucoup dans cet espoir, c'est que la fonte des neiges avait provoqué une crue du fleuve, en sorte que le franchir à gué apparaissait comme une chose absolument impossible. 56. Quand il apprit cela, César pensa qu'il devait faire diligence. S'il lui fallait, en construisant des ponts, courir le danger d'une attaque, il importait qu'il pût livrer bataille avant qu'on eût réuni sur ce point de trop grandes forces. Quant à changer ses plans et à se diriger vers la province, mesure que personne à ce moment-là ne jugeait indispensable, maintes raisons s'y opposaient. Les Gaulois nous mépriseraient, la chose était déshonorante, les Cévennes barraient la route, les chemins étaient malaisés, mais surtout, ils craignaient fort pour Labienus, qui était séparé de lui, et pour les légions qu'il avait détachées sous ses ordres. Aussi, surprenant tout le monde, il atteignit la Loire à très fortes étapes de jour et de nuit, puis, ses cavaliers ayant découvert un gué convenable, du moins dans la circonstance, car c'était tout juste si les bras et les épaules pouvaient rester hors de l'eau pour soutenir les armes, il disposa sa cavalerie de façon à briser le courant, et, comme l'ennemi s'était d'abord troublé à notre vue, il passa sans perte. Il trouva dans la campagne du blé et beaucoup de bétail, se réapprovisionna et se mit en route pour le pays des Cénons. 57. Tandis que ces événements se déroulent du côté de César, Labienus, laissant à Agedincum pour garder les bagages les troupes de renfort qu'il venait de recevoir d'Italie, part vers Lutèce avec 4 légions. C'est la ville des Parisii, située dans une île de la Seine. Quand l'ennemi sut qu'il approchait, d'importants contingents venus des cités voisines se rassemblèrent. On donne le commandement en chef à Laulerque Camulogène. Il était presque épuisé par l'âge, mais sa particulière connaissance de l'art militaire lui valut cet honneur. Ayant observé l'existence d'un marais continu qui déversait ses eaux dans la Seine et rendait l'accès de toute la région fort difficile, il s'y établit et entreprit de nous interdire le passage. 58. Labienus commença par essayer de faire avancer des mantelets, de combler le marais avec des fascines et des matériaux de remblayage, enfin de construire une chaussée. Voyant que l'entreprise offrait trop de difficultés, il sortit sans bruit de son camp à la troisième veille et, reprenant le chemin qu'il avait suivi pour venir, arriva à Metlocedum. C'est une ville des Cénons située dans une île de la Seine, comme nous venons de dire, qu'était Lutèce. Labienus s'empare d'environ 50 embarcations, les unit rapidement les unes aux autres et y jette des soldats. grâce à la surprise et à la terreur des gens de la ville, dont un grand nombre d'habitants étaient partis pour la guerre, il se rend sans combat maître de la place. Il rétablit le pont que l'ennemi avait coupé les jours précédents, y fait passer son armée et fait route vers Lutèce en suivant le cours du fleuve. Les ennemis, informés par ceux qui s'étaient enfuis de Métlocédum, font incendier Lutèce et couper les ponts de cette ville. De leur côté, ils quittent le marais et s'établissent sur la rive de la Seine, devant Lutèce et face au camp de Labienus. 59. Déjà, on entendait dire que César avait quitté Gergovie. Déjà, des bruits couraient concernant la défection des Éduains et le succès du soulèvement général. Et les Gaulois, dans leurs entretiens, affirmaient que César avait été coupé, n'avait pu franchir la Loire et, contraint par la disette, avait pris le chemin de la province. Quand la trahison des Éduains fut connue des Bellovaques, qui déjà auparavant s'étaient d'eux-mêmes montrés peu sûrs, ils se mirent à mobiliser et à préparer ouvertement les hostilités. Alors, Labienus, comprenant, en présence d'un tel renversement de la situation, qu'il devait complètement changer ses plans, songea non plus à faire des conquêtes et à livrer bataille à l'ennemi, mais à ramener son armée saine et sauve à Agedincum. Et, en effet, d'un côté, c'était la menace des Bellovaques, peuple qui est réputé parmi les peuples gaulois pour le plus valeureux. De l'autre, Camulogène, avec une armée prête au combat et bien équipée. De plus, les légions étaient séparées de leurs réserves et de leurs bagages par un grand fleuve. Devant de telles difficultés soudainement surgies, il voyait bien qu'il fallait chercher le salut dans une résolution courageuse. 60. Donc, ayant réuni à la tombée du jour un conseil de guerre et ayant exhorté ses officiers à exécuter soigneusement et rigoureusement ses ordres, il confie chacune des embarcations qu'il avait amenées de Métlocédum à un chevalier romain et ordonne qu'après la première veille, on descende en silence le fleuve jusqu'à 4 000 de distance, et que là, on attende son arrivée. Il laisse pour la garde du camp 5 cohortes, celles qu'il jugeait les moins solides. Il ordonne aux 5 autres cohortes de la même légion de partir au milieu de la nuit avec tous les bagages en remontant le fleuve et de faire grand bruit. Il réquisitionne aussi des barques et les dirige du même côté à grand fracas de rames. Lui-même, peu après, sort en silence avec 3 légions et gagne l'endroit où la flotte avait ordre d'aborder. 61. Là, les éclaireurs ennemis, on en avait disposé tout le long du fleuve, sont surpris par notre arrivée, car un orage avait éclaté soudain et ils périssent sous nos coups. L'infanterie et la cavalerie sous la direction des chevaliers romains, à qui Labienus avait confié cette tâche, sont transportés rapidement sur l'autre rive. À l'aube, l'ennemi apprend presque simultanément qu'une agitation inaccoutumée règne dans le camp romain, qu'une importante colonne remonte le fleuve, que du même côté on entend le bruit des rames, et qu'un peu en aval, il y a des navires qui transportent des soldats d'une rive à l'autre. À cette nouvelle, pensant que les légions franchissaient le fleuve en 3 endroits, et qu'effrayés par la défection des Éduains, les Romains préparaient une fuite générale, ils divisèrent eux aussi leurs troupes en 3 corps. Laissant un poste en face du camp et envoyant un petit détachement dans la direction de Métlocédum, avec mission de n'avancer qu'autant que l'auraient fait les embarcations, ils menèrent le reste de leurs forces à la rencontre de Labienus. 62. Au lever du jour, tous les nôtres avaient franchi le fleuve et on voyait en face la ligne ennemie. Labienus, adressant la parole à ses soldats, les exhorte à se souvenir de leur valeur, si souvent éprouvée, et de tant de glorieuses victoires, enfin à se conduire comme si César en personne, lui qui maintes fois les avait menés à la victoire, assistait à la bataille. Puis il donne le signal du combat. Au premier choc, à l'aile droite, où avait pris position la 7e Légion, l'ennemi est enfoncé et mis en déroute. À gauche, où était la 12e, les premiers rangs ennemis avaient été abattus par les javelots. Mais le reste opposait une résistance farouche, et pas un n'eût pu être soupçonné de songer à fuir. Le chef ennemi, Camulogène, était là auprès des siens et les encourageait. Mais tandis que la victoire était encore incertaine, les tribuns de la 7e Légion, ayant appris ce qui se passait à l'aile gauche, firent paraître leur légion sur les derrières de l'ennemi et la portèrent à l'attaque. Même alors, personne ne lâcha pied, mais ils furent tous enveloppés et massacrés. Camulogène partagea le sort commun. Quant à ceux qui avaient été laissés en face du camp de Labienus, ayant appris que l'on se battait, ils allèrent au secours des leurs et s'emparèrent d'une colline. Mais ils ne purent soutenir le choc de nos soldats victorieux. Ils se mêlèrent donc aux autres Gaulois qui fuyaient, et ceux que les bois et les collines ne dérobèrent pas à notre poursuite furent tués par nos cavaliers. Cette action terminée, Labienus retourne à Agedincum, où avaient été laissés les bagages de toute l'armée. Puis, avec toutes ses troupes, il rejoint César. 63. Quand on connaît la trahison des Éduens, la guerre prend une extension nouvelle. Ils envoient partout des ambassades. Par tout ce qu'ils ont d'influence, d'autorité, d'argent, ils s'efforcent de gagner les cités. Comme ils détiennent les otages que César avait laissés chez eux, leur supplice sert à terrifier ceux qui hésitent. Ils demandent à Vercingétorix de venir les trouver et de se concerter avec eux sur la conduite de la guerre. Celui-ci ayant consenti, ils prétendent se faire remettre le commandement suprême, et comme l'affaire dégénère en conflit, une assemblée générale de la Gaule est convoquée à Bibracte. On s'y rend en foule de toutes parts. La décision est laissée au suffrage populaire. Celui-ci, à l'unanimité, confirme Vercingétorix dans le commandement suprême. Les Rèmes, les Lingons, les Trévires ne prirent point part à cette assemblée. Les premiers parce qu'ils restaient les amis de Rome. Les Trévires parce qu'ils étaient trop loin et étaient menacés par les Germains, ce qui fut cause qu'ils se tinrent constamment en dehors de la guerre et n'envoyèrent de secours à aucun des deux partis. Les Éduens éprouvent un vif ressentiment à se voir déchus du premier rang. Ils déplorent le changement de leur fortune et regrettent les bontés de César, sans oser toutefois, les hostilités étant commencées, se tenir à part du plan commun. Eporedorix et Viridomaros, qui nourrissaient les plus hautes ambitions, ne se subornent qu'à contre-cœur à l'autorité de Vercingétorix. 64. Celui-ci commande aux autres cités de lui fournir des otages et fixe un jour pour leur remise. Il donne l'ordre que tous les cavaliers, au nombre de 15 000, se concentrent rapidement. Pour l'infanterie, il se contentera de ce qu'il avait jusque-là. Il ne veut pas tenter la fortune ni livrer de batailles rangées. Mais puisqu'il dispose d'une cavalerie très nombreuse, rien n'est plus facile que d'empêcher les Romains de se procurer du blé et de faire du fourrage. Seulement, ils ne devront pas hésiter à rendre de leurs propres mains leurs blés inutilisables et à incendier leurs granges. Tactique de destruction de leurs biens qui, ils le savent, leur assure pour toujours la souveraineté et la liberté. Ces mesures prises, ils ordonnent aux Éduins et aux Ségusiaves, qui sont à la frontière de la province, de mettre sur pied 10 000 fantassins. Il y joint 800 cavaliers. Il confie cette troupe au frère d'Eporédorix et lui commande d'attaquer les Allobroges. De l'autre côté, il lance les Gabales et les tribus arvernes de la frontière contre les Elviens et envoie les Rutènes et les Cadurques ravager le pays des Volques arécomiques. Cela ne l'empêche point de solliciter en secret les Allobroges par des courriers privés et des ambassades, car il espérait que les souvenirs de la dernière guerre n'étaient pas encore éteints dans leur esprit. Au chef, il promet des sommes d'argent, et à la nation, que toute la province lui appartiendra. 65. Pour faire face à tous ces dangers, on avait préparé une force défensive de 22 cohortes, levée dans la province même par le légat Lucius César, et qui, de tous les côtés, s'opposait aux envahisseurs. Les Elviens livrent spontanément bataille à leurs voisins et sont battus. Ayant perdu le chef de la cité, Caius Valerius Domnotaurus, fils de Capburus, et un très grand nombre d'autres, ils sont contraints de se réfugier dans leur ville, à l'abri de leurs remparts. Les Allobroges organisent avec soin et diligence la défense de leurs frontières, en disposant le long du Rhône une ligne serrée de postes. César, qui savait la supériorité de l'ennemi en cavalerie, et qui, toutes les routes étant coupées, ne pouvait recevoir aucun secours de la province ni de l'Italie, envoie des messagers au-delà du Rhin en Germanie, chez les peuples qu'il avait soumis au cours des années précédentes, et se fait fournir par eux des cavaliers avec les soldats d'infanterie légère qui sont habitués à combattre dans leur rang. À leur arrivée, comme ils avaient des chevaux médiocres, il prend ceux des tribuns militaires, des autres chevaliers romains, des evocati, et les leur donne. 66. Sur ces entrefaites, les forces ennemies qui venaient de chez les Arvernes et les cavaliers que devait fournir toute la Gaule se réunissent. Vercingétorix forme de ceux-ci un corps nombreux, et comme César faisait route vers le pays des Sécanes, en traversant l'extrémité du territoire des Lingons, afin de pouvoir plus aisément secourir la province, il s'établit, dans trois camps, à environ 10 000 pas des Romains. Il réunit les chefs de ses cavaliers et leur déclare que l'heure de la victoire est venue. Les Romains sont en fuite vers la province. Ils quittent la Gaule. Cela suffit à assurer la liberté dans le temps présent. Mais c'est trop peu pour la sécurité du lendemain. Car ils reviendront avec des forces plus considérables. Ils ne cesseront pas les hostilités. Il faut donc les attaquer tandis qu'ils sont en ordre de marche et embarrassés de leurs bagages. Si les fantassins essaient de secourir ceux qu'on attaque et s'y attardent, ils ne peuvent plus avancer. Si, ce qu'ils croient plus probable, ils abandonnent les bagages pour ne plus penser qu'à leur vie, ils perdront en même temps leurs moyens d'existence et l'honneur. Quant aux cavaliers ennemis, il ne faut pas douter qu'il ne s'en trouve pas un parmi eux pour oser seulement quitter la colonne. Afin qu'ils aient plus de cœur à cette attaque, il tiendra toutes ses forces en avant du camp et intimidera l'ennemi. Les cavaliers l'acclament, crient qu'il leur faut se lier par le plus sacré des serments. Pas d'asile sous un toit, pas d'accès auprès de ses enfants, de ses parents, de sa femme, pour celui qui n'aura pas deux fois traversé à cheval les rangs ennemis. 67. La proposition est approuvée. On fait prêter à tous le serment. Le lendemain, les cavaliers sont répartis en trois corps et deux apparaissent soudain sur nos flancs, tandis que le troisième, en tête de la colonne, s'apprête à lui barrer la route. Quand César apprend la chose, il ordonne que sa cavalerie, également partagée en trois, court à l'ennemi. On se bat partout à la fois. La colonne fait halte. On rassemble les bagages au milieu des légions. S'il voyait nos cavaliers en difficulté ou en dangereuse posture sur quelques points, César faisait faire front et attaquer de ce côté-là. Cette intervention retardait la poursuite des ennemis et rendait courage aux nôtres, qui se sentaient soutenus. Enfin, les Germains, sur la droite, avisant une hauteur qui dominait le pays, bousculent les ennemis qui s'y trouvaient. Ils les poursuivent jusqu'à la rivière, où Vercingétorix avait pris position avec son infanterie, et en font un grand carnage. Voyant cela, les autres craignent d'être enveloppés et se mettent à fuir. Partout on les massacre. Trois Éduins de la plus haute naissance sont faits prisonniers et conduits à César. Cotos, chef de la cavalerie, qui avait été en conflit avec Convicto Litavis lors des dernières élections, Cavarilos, qui avait été placé à la tête de l'infanterie éduenne après la défection de Litavicos, et Eporidorix, qui avant l'arrivée de César avait dirigé la guerre des Éduins contre les Sécanes. Fin de la partie 3 de 4 du livre 7.